Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1990, pour un film de la collection Cinéaste de notre temps, Serge Danet et Jacques Rivette étaient réunis dans Jacques Rivette le Veilleur, le très beau documentaire réalisé par Claire Denis. Un an plus tôt, Danet recevait dans Microfilm le réalisateur Rouanet à l'occasion de la sortie de la bande des quatre. Rivette occupait comme cinéaste et aussi comme critique une place particulière dans la cinéphilie de Serge Danet. Au fil des années, le travelling de Capot fut mon dogme portatif, l'axiome qui ne se discutait pas, le point limite de tout débat, disait Danet à propos du fameux article de Rivette paru dans les Cahiers du cinéma en 1961. Avec quiconque ne ressentirait pas immédiatement l'abjection du travelling de Capot, poursuivait Danet, je n'aurais définitivement rien à voir, rien à partager. Seconde partie de l'émission de Serge Danet Microfilm, dont Jacques Rivette était l'invité en 1989.
Microfilm. Microfilm, bonsoir. Comme promis, la suite de la conversation avec Jacques Rivette. On était parti de la bande des quatre, et puis on était arrivé à des choses plutôt intéressantes sur le théâtre qui continue éternellement, et les générations qui, elles, passent. Moi, je voudrais te poser une question, Jacques, c'est... Tu es, parmi les gens de la Nouvelle Vague, tu es celui qui, le premier, à ma connaissance, a dit le théâtre, oui. En gros, c'est un mouvement esthétique qui vient autant de Bresson que de Renoir, et je pense que l'influence Bresson a été plus immédiate que l'influence Renoir. Mais toi, tu as fait un film sur Renoir, et tu es le premier, avec La Religieuse, à être passé sur les planches. Donc, le théâtre a toujours titillé, disons. Et en même temps, je trouve que le mot théâtre est trop général. Le théâtre, c'est aussi bien Visconti, Oliveira, Bergman, Renoir et Rivette. Moi, ce que je pense, c'est que tu t'intéresses beaucoup à ce qui, dans le théâtre, est le devenir, c'est-à-dire la théâtralité, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend. Pas tellement le spectacle fini, pas non plus les coulisses avec tous les ragots, c'est pas du tout regarder comment quelqu'un confond la vie avec la scène ou le théâtre avec la ville. C'est beaucoup plus plat, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est un métier. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans tous tes films, quand il y a du théâtre, c'est des grands classiques français. On n'a jamais vu chez toi des gens répéter du Brecht ou du Strindberg ou du Harold Pinter. Est-ce que c'est délibéré et conscient chez toi? C'est-à-dire que le théâtre, au fond, c'est les classiques.
Je ne sais pas si je dirais le théâtre, au fond, c'est les classiques. Encore que je pense que profondément, j'ai tendance à le penser. Ce qui se passe, c'est que, en tout cas pour les films, si à chaque fois j'ai pris des classiques, c'est pour deux raisons très simples. La première, c'est pour pas avoir de problème de droit d'emmerdement avec les héritiers de Pirandello ou de Claudel. Pour citer deux auteurs XXe siècle, tous les deux grands écrivains de théâtre. Dans Out, c'était Schill.
C'est oui, enfin, classique.
Et Schill, évidemment, très transposé, puisque d'un côté, Lonsdale répétait, enfin, vraiment travaillait, en prenant comme prétexte Prométhée enchaîné, et de l'autre côté, Michel Moretti et sa bande, c'était à partir des Sept contre Thèbes. Mais enfin, donc, surtout pour donc, L'amour fou, c'était Andromaque, et là, donc, c'est dans la bande des quatre, c'est La double inconstance. Si j'ai pris ces pièces, c'est parce que ce sont des pièces très connues, enfin bon, Andromaque plus que La double inconstance, mais quand même, La double inconstance est un des deux ou trois Marivaux les plus connus, et dont on pouvait montrer des morceaux à gauche, à droite, sans trop se préoccuper, sans se sentir obligé de raconter au spectateur l'ensemble de l'intrigue. Parce que je me disais que 99% des personnes que ça intéresserait de voir L'Amour fou connaîtraient déjà, non pas Andromaque par cœur, mais le principe d'Andromaque, Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Bon, ça, tout le monde le sait. On sait ce qu'on apprend en troisième ou en seconde, et on oublie tout le reste, mais ça, on s'en souvient. Pour la double inconstance, c'est pas tout à fait le cas, là, effectivement. La pièce est pas aussi résumable en une formule. Mais on pouvait également prendre quelques... On a surtout pris, d'ailleurs, dans le premier acte, et puis le dernier... le début et la fin de la pièce, sans se sentir obligé de raconter l'histoire de la double inconstance qui n'a aucun rapport, contrairement à ce que peuvent voir éventuellement certains critiques avec le reste de l'intrigue, de même que d'ailleurs, on avait choisi Andromaque sans chercher aucun rapport avec l'intrigue de L'Amour fou, avec ce qui se passait entre les personnages de Bulogier et Jean-Pierre Calfon. Et il se trouvait qu'au montage, il y avait plein de rapports qui se créaient. On a passé tout notre temps au montage, enfin une partie de notre temps au montage, à essayer de les enlever, les rapports entre les répétitions d'Andromaque et l'intrigue proprement dite de L'Amour fou. Ça répond pas tout à fait à ta question. Je ne vais pas assez souvent au théâtre pour pouvoir parler du théâtre.
Moi, je croyais que tu allais beaucoup, au contraire.
J'y allais pas mal dans les années 60. Pas beaucoup d'ailleurs, mais enfin j'y allais assez souvent. J'avais quand même envie de voir ce qui se passait. Et puis c'est devenu tellement difficile de voir des pièces. Il y a un tournant dans ma vie, c'est quand Streller a monté la trilogie Goldoni à l'Odéon. Et j'ai vu pas mal de spectacles montés par Streller, soit au Théâtre des Nations, enfin, essentiellement au Théâtre des Nations. C'était, je crois d'ailleurs, la première mise en scène qu'il faisait en France avec des acteurs français. Et j'ai été un matin faire la queue à l'Odéon pour prendre ma place. Et puis je suis arrivé, c'était le début, tout était déjà loué, complet, archi. Je dis, bon, puisque c'est comme ça, maintenant terminé, j'y vais plus. Puisque avant même qu'un spectacle soit commencé, il faut déjà toutes les représentations. C'est comme pour la danse. Il y a ce phénomène parisien qui fait que tout le monde, et qui s'est accentué justement à ce moment-là, il y a une quinzaine d'années, que tout le monde a envie de voir la même chose et que par contre, et qu'il n'y a personne pour voir tout le reste. Voilà. C'est pareil pour les films, bien
pour
entendu.
Ça
joue pour le théâtre aussi de façon énorme. Alors bon, maintenant, tout le monde, depuis 15-5 ans, se précipite à Pina Bausch, par exemple, pour la danse, ou Cunningham. Bon, il y a 20 ans, j'ai vu les premiers spectacles de Cunningham à Paris, qui d'ailleurs se jouaient avec les gens qui partaient au milieu, qui détestaient ça. Bon, maintenant, Cunningham, si on n'a pas loué 3 mois à l'avance, on ne peut pas le voir. Donc, dans ces cas-là, moi, j'y vais plus, parce que j'ai plus envie, je ne vais pas faire la queue à 5 heures du matin, j'ai passé cet âge, malheureusement, où on a le courage de faire ça. Et puis, si on ne m'envoie pas d'invitation, tant pis, j'y vais pas, tant pis, je vais voir d'autres choses. Je vais au cinéma.
Quand un cinéma, cinéaste...
on peut continuer, ça reste quelque chose d'humain.
Oui.
Le cinéma, c'est pas comme le théâtre.
On rentre quand on veut,
c'est ça.
Veut.
Le théâtre, c'est une des choses que je déteste dans le théâtre, c'est qu'il y a une idée de privilège. Il y a l'idée du privilège dans le théâtre par rapport au public. Et surtout quand c'est des spectacles comme la Comédie Française, comme l'opéra, comme justement, à plus forte raison, quand c'est les tournées Cunningham ou Pina Bausch ou Streller qui viennent donner un certain nombre de représentations. Il y en a 10, il y en a 15, il n'y en a pas plus. Et voilà, il faut avoir vu ça. Et sinon, on est un plouc. Et moi, dans ce cas-là, je suis un plouc. Alors vraiment, je préfère aller voir le film inconnu qui sort la même semaine d'un metteur en scène français qui fait son premier film, ou bien d'un metteur en scène chilien ou vénézuélien ou patagon qu'on ne connaît pas. 9 fois sur 10, je suis déçu, ou pas, c'est pas une révélation, mais ça m'intéresse davantage. Après tout, je suis cinéaste. Et donc, je vais au théâtre maintenant quand je suis devenu très paresseux, quand c'est des personnes que je connais qui ont monté le spectacle ou qui jouent dedans et qu'on m'envoie un carton. Et voilà.
Et par exemple, quand un cinéaste comme toi, qui après tout est cinéaste, comme tu dis, va au théâtre, c'est pour regarder la mise en scène de théâtre, parce que ça a quand même des points communs avec le cinéma, ou pour voir les acteurs ?
J'y vais pour voir la pièce. Et puis après les acteurs, et puis après la mise en scène. Mais enfin, je veux dire, c'est un ensemble. Je déteste les mises en scène de théâtre outrecuidantes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi très souvent, je ne suis pas content dans ce que je vois depuis 15 ans. C'est pourquoi j'ai de moins en moins envie d'y aller, d'ailleurs. Et parce que maintenant, il y a d'abord la mise en scène, après il y a le décor, ou il y a d'abord le décor même, après il y a la mise en scène, après il y a les éclairages, il n'y a qu'à lire les articles, les comptes rendus dans Le Monde ou dans l'IB ou n'importe où, et même les invitations qu'on reçoit. On reçoit maintenant les invitations où toute l'équipe est indiquée. J'ai reçu il y a 3 jours l'invitation pour voir cette pièce que j'irai voir, L'Imposture montée par Brigitte Jacques, adaptation par Pascal Bonitzer du roman de Bernanos. j'irai le voir. Eh bien, il y a tout le monde sur ce carton d'invitation et aucun comédien n'est mentionné. On ne sait même pas que c'est Clévenot qui joue le rôle principal, qui a Michel Robin, qui a 10 acteurs, tous plus passionnants les uns que les autres. Je trouve ça scandaleux, personnellement. Je trouve ça scandaleux.
Mais comment tu interprètes ça ?
J'interprète ça, il y a un mépris gigantesque de l'acteur dans le théâtre en France actuellement. Ce qui est évident du point de vue des gens qui dirigent les théâtres et des journalistes qui le regardent. Parce que également, les journalistes, 9 fois sur 10, ils se croiraient maintenant vexés depuis 5 ans s'ils disent pas... c'est très important, les Lumières, c'est très beau. Moi, je suis le premier à admirer. Mais ils se croiraient vraiment déshonorés s'ils ne disaient pas « admirable lumière de monsieur un tel ou de mademoiselle un tel ». Et par quoi ils traitent les acteurs avec le plus grand mépris, je veux dire... Que ce soit Cournot ou n'importe qui, tous ces gens-là profondément méprisent les comédiens.
Mais cette histoire des acteurs va nous permettre de faire une sorte de liaison. Parce que moi, ce qui me frappe, alors là, dans le cinéma, on revient dans le cinéma, j'en parlais encore hier, ça n'arrête pas, c'est une sorte de débat constant maintenant. Je disais...
C'est pourquoi, excuse-moi, je vais faire une parenthèse, pourquoi quand même, parmi les metteurs en scène de prestige français, j'aime beaucoup quand même Chéreau, parce que lui, Dieu sait s'il y a les décors de Peduzzi, les lumières, c'est soigné, mais lui ne méprise pas les comédiens.
Absolument, oui. Parce que lui aussi, il peut jouer la comédie. Voilà. Quelqu'un me disait, le film de Zidi est pas mal et il marche pas du tout. Alors moi, je l'ai pas vu, c'est peut-être pas mal, pourquoi pas.
Il est surprenant, il est sidérant.
La question n'est pas là. La question, c'était... on a
faut vraiment le voir, absolument.
Depardieu d'Etmers... Un film d'un cinéaste qui a fait beaucoup de comédies, qui n'ont pas été tellement estimées par la critique intellectuelle, mais c'est la règle, hélas. Puis qui a fait Les Ripoux, qui était une bonne surprise, puis qui fait de nouveau un film...
Si deux étaient un film italien, s'il était signé Scola, oui. Et si c'était des comédiens italiens, la critique serait délirante.
Et alors on me disait, mais c'est incroyable, le film qui a pourtant une critique pas trop mauvaise, etc., ne marche pas. Et je disais...
Méprisante, une critique condescendante, à part Libération. Mais par exemple, la critique du Monde était totalement méprisante.
Ah bon, ça j'ai pas lu. Je disais, mais je suis triste, mais ça m'étonnerait aujourd'hui qu'un film qui repose sur le travail des acteurs et sur l'honnêteté d'un cinéaste qui essaie de raconter l'histoire d'un couple, par exemple, l'histoire qui a été l'histoire dominante des années 60-70, qui maintenant, visiblement, n'intéresse plus personne.
Oui, mais là, justement, c'est une histoire qui n'a jamais été racontée. Zidi a réussi à trouver une façon totalement contemporaine de raconter l'histoire d'un couple, parce que, à ma connaissance, jamais personne n'a raconté l'histoire, justement, que raconte son film.
Alors, c'est très possible, et donc je te crois sur parole. Mais je me disais, je ne suis pas surpris, hélas, que tu ne marches pas, parce qu'un film qui reposerait sur le travail des acteurs, une histoire contemporaine, deux personnages et une mise en scène relativement au service de cette histoire, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça marcherait, puisque ce qui marche aujourd'hui, c'est bon, alors, Litanie habituelle, c'est Lourd, c'est Le Grand Bleu, qui sont des films quand même qui ont un point commun, quelle que soit leur qualité, parce que moi je suis pas contre Le Grand Bleu. Pas foncièrement contre, disons.
C'est pas que tout ces contre films, non plus, comme dit
pas tout contre, mais c'est un film que je trouve curieux et qu'il faut pas mépriser.
Oui, oui, oui.
Bon, mais je dis, de toute façon, ces films ont un point commun, et je pourrais dire aussi Bagdad Café, Châtillaise, etc. C'est des films qui se passent parfaitement de l'acteur. Et je voyais comme contre-exemple, le film de Duperron, dont la presse a dit beaucoup de bien, et où quand même ce serait vraiment cruel de dire qu'au moins de neuf ne se donne pas un mal de chien pour faire un travail de comédienne, et Depardieu est très bien. Puis c'est un premier film, donc c'est un film qui a eu un score tout à fait moyen, etc. Et je pense que Zidi sera pareil. Alors, ça m'intéresse que d'un côté, ton film, qui parle de jeunes comédiennes apprenant leur métier, mais qui ne sont pas connus, donc en tant que jeune comédienne, intéresse, et qu'à l'autre bout de la chaîne, on passe immédiatement aux animaux, aux acteurs anonymes, à ceux qu'on ne reverra pas, parce que, par exemple, le personnage du Grand Bleu, qui est plutôt bien, d'ailleurs, il est douteux qu'il fasse une carrière de cinéma classique. Enfin, moi, je pense pas. Et que beaucoup de gens qui disaient « Ah, assez du cinéma d'auteur, parce que c'est des intellectuels dégoûtants qui se masturbent, qui ne font pas les vraies histoires. »
On veut depuis 5 ans. On veut des scénarios.
Ça boucle avec l'émission de la semaine dernière. On veut des scénarios de béton et des acteurs que tout le monde aime. Or, il arrive que des cinéastes font en gros ça, le font pas trop mal, et on se rend compte que c'est pas ça.
Tant Duperron que Zidi.
Voilà, on se rend compte que c'est pas ça qui est décisif, que c'est pas ça qui intéresse les gens. Les gens sont sur un autre scénario, en tant que spectateur, en tant que consommateur d'images, qui met en, en branle autre chose, mythologique, sur la figure, sur le désert, sur la désaffection du monde, sur l'envie d'amour, sur le père mort, sur les éléments, enfin bon, sur le Paris-Dakar.
Mythologique, c'est, tu l'as dit, c'est effectivement, les gens ont envie de mythes. C'est le point c'est commun de Bagdad Café, du Grand Bleu, de tout ça.
Absolument.
Bon, films qui sont plus ou moins réussis, moi, il y en a certains que j'aime bien et d'autres que j'aime moins. Mais effectivement, leur point fort, c'est qu'ils ont, sans le faire exprès, d'ailleurs, la plupart du temps, enfin, ou parfois, peut-être en le sachant un petit peu, mais pas...
Pas trop.
Même Besson, qui était sans doute plus conscient de ça que Percy Adlon, ils sont tombés en plein dans tel mythe, ce qui avait déjà été la force des Trois Hommes et un Couffin, comme tout le monde a remarqué.
C'est aussi la force du film de Bertolucci, qui a également très bien marché. Oui. Il n'a pas marché sur Bertolucci, qui est pourtant très connu, mais sur la Chine et sur le sujet.
Et sur le sujet, qui est un très grand sujet,
qui est un très grand sujet.
Moi, la Chine, personnellement, au départ, m'intéressait pas du tout. Et c'est quand j'ai vu quel sujet se pointait sous le costume chinois que j'ai commencé à m'intéresser au film. Et à ce moment-là, par contre-coup, je me suis de nouveau intéressé à la Chine.
Et donc, on a envie de dire, les gens qui sont des auteurs, d'une façon, c'est comme ça, hein. Donc toi, par exemple, eux s'intéressent terriblement aux acteurs. À un moment où l'acteur et l'auteur, finalement, ils sont un peu complices. Enfin, leur sort est un petit peu complice. C'est-à-dire que si on se passe des auteurs, on va se passer également des acteurs. Alors, est-ce que tu le vis d'une façon aussi...
On est dans le même bateau.
Oui, c'est le même bateau.
Ah oui, ça c'est évident.
Et est-ce que c'est un moment...
De toute façon, je crois que les comédiens le savent aussi.
Est-ce que c'est une vraie mutation dans le cinéma? Alors toi, qui j'écrivais, qui vois plus de films que n'importe qui.
Oui, c'est une vraie mutation dans le cinéma, mais qui de toute façon, c'est pas un hasard si maintenant beaucoup des films américains plus ou moins réussis sont produits par des comédiens. Et en France, ça vient aussi, puisque de toute façon, justement, Deneuve et Depardieu sont coproducteurs du film de Duperron. Mm-hmm. Et donc, on est dans le même bateau. Et je crois que maintenant, les comédiens sont obligés de s'en apercevoir. Certains, peut-être d'ailleurs avec Piccoli, ça fait longtemps qu'il est coproducteur de certains de ses films ambitieux. Il a même deux fois perdu tout ce qu'il a pu pour faire des films intéressants, justement. Et puis bon, il repart à chaque fois vaillamment, courageusement. C'est une évolution logique, on est du même côté. Donc, même si eux sont devant la caméra et nous derrière, on est du même côté par rapport à toute l'évolution du système, du marché. On est les saltimbanques.
Oui, tous. C'est intéressant parce que par rapport à ça, on peut voir les différents pays. Par exemple, bon, moi, je sais pas, le cinéaste européen qui m'intéresse le plus, c'est Moretti. Mais il est auteur-acteur. D'emblée, hein, il est né comme ça.
Il renoue avec la vieille tradition de Chaplin, Keaton.
Les cinéastes américains qui nous tiennent à cœur, alors peut-être plutôt Cassavetes qui vient de mourir, mais quand même Woody Allen à la longue, ça finit par être assez impressionnant.
Bien sûr.
Eastwood, c'est formidable.
Bien sûr.
Newman, bon, il a un peu arrêté, mais c'était très bien. C'est des acteurs. Alors on se dit qu'en France, on a eu des acteurs formidables, dans le café-théâtre ou autour, Coluche par exemple. Je me rappelle Coluche me disant, on avait vu après Ciao Pantin, jamais je tournerai avec Godard. C'est trop dangereux pour moi. Ce qui était extrêmement intelligent de sa part, parce qu'il savait bien que Godard ne prend les acteurs que sur la pente descendante.
Mais pour les détruire.
Oui, pas pour les détruire, mais pour profiter au passage.
Non, pas pour les détruire. D'ailleurs, je retire ce que je viens
de
dire.
Oui, c'est pas gentil. Et moi non plus, je dis pas ça. Je pense que Godard profite d'un acteur qui est sur la pente descendante en tant que mythe, en tant qu'image, pour le faire travailler une fois dans sa vie, comme Godard aimerait que travaillent les acteurs, c'est-à-dire dans un système beaucoup plus disciplinaire et scolaire, disons. Ce dont d'ailleurs les acteurs, quand ils ne sont pas bêtes, genre Johnny Hallyday, lui savent gré. Mais Coluche avait beaucoup, Depardieu par exemple, avait beaucoup de bon sens en disant « Godard, c'est dangereux, pour nous, c'est un peu... c'est la retraite, quoi. On fait un Godard et après, etc. » Et j'ai le sentiment qu'en France, on a du mal parce qu'on n'a pas d'auteur-acteur. Et ça me mène à une question alors que je te pose, mais qui est complètement impromptue, qui vient dans la conversation. C'est que tu fais partie de ces gens qui ne se sont pas montré comme acteur, sauf, je me souviens, un petit rôle dans le film de Gregorio. Hein. Et en même temps, alors moi, c'est l'idée que j'ai sur tes films, très globale, je pense qu'il y a chez toi, non pas un exhibitionnisme d'acteur refoulé, enfin, ça, bon, c'est vrai pour tout le monde, à la limite, c'est pas très intéressant comme idée, quelque chose qui tient à la danse et à la comédie musicale. J'ai le sentiment, des fois, que tu fais mieux les mouvements que devraient faire les acteurs, que les acteurs ne les font eux-mêmes. Et alors, bon, la question toute bête, ce serait, tu t'intéresses pas mal à la danse, on a parlé de Merce Cunningham il n'y a pas longtemps, est-ce que ça t'a manqué, à un moment, consciemment ou pas, qu'il n'y ait absolument aucune possibilité dans le cinéma français de faire danser les gens?
Ah ben oui, ça m'a manqué, mais c'était même, je veux dire, le quatrième. Déjà dans Norwa, j'avais engagé pour des seconds rôles. Bon, on n'a pas pu développer autant qu'on aurait voulu, parce que c'est un film qui a été tourné en 4 semaines, dans des conditions difficiles. Donc, mais il y avait le principe de presque tous les seconds rôles étaient des danseurs et des danseuses. Et le quatrième film, qui aurait été puisque c'était une série de 4 films, le quatrième film aurait été en principe un film chanté et dansé, mais pas du tout dans le principe Jacques Demy, qui est très beau et tout, mais dans un principe beaucoup plus de musique contemporaine, danse contemporaine. Et j'en avais parlé avec Caroline Carlson, qui était d'accord sur le principe. Ça aurait été en fait le duo, puisque chaque film était un duo de comédiennes, enfin un duo, un conflit de comédiennes. C'était ça le principe des 4 films, sauf le premier qu'on a commencé à tourner avec Leslie Caron et Albert Finet. Mais les 3 autres étaient des conflits de comédiennes. Donc Juliette et Bulle dans Duel, Géraldine et Bernadette dans Le Roi, et le dernier, ça aurait été Anna Karina et Caroline Carlson. Donc, avec la danse très développée, puisque Caroline aurait été chargée, bien entendu, de faire la chorégraphie avec ses danseurs. Et de toute façon, dans Norwa, il y a deux des principaux second rôles, Lario Exon et Anne-Marie Reynaud, qui venaient de la compagnie à l'époque de Caroline Johansson.
Parce que moi, je pense que tu es un grand chorégraphe sans emploi.
Oui, mais c'est très difficile en France. Là, je renie pas. Je veux dire chorégraphe, j'en sais rien. Je sais pas l'ombre du début du vocabulaire de la danse.
Ouais, pas de mal,
je suis assez allergique à la danse classique. Même si quand j'en vois un petit peu, ça m'épate. Quand c'est Nureyev ou Baryshnikov, bien sûr, je suis épaté. Mais la danse moderne. Enfin, je sais que ce qui m'a le plus touché, j'étais très 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 fervent de ce que faisait Caroline Carlson, mais j'avais vraiment été très bouleversé par les trois fois de ballet que j'avais vu de Merce Cunningham il y a 20 ans. Ça avait été un grand, même pas, ça me semblait évident. En plus, ça me semblait évident. J'étais au milieu d'une salle qui levait les bras au ciel, si j'ose dire, moralement en tout cas, et ça me semblait évident. Enfin,
ah oui, c'est magnifique. Oui.
Tout à fait simple. Enfin.
Mais moi, je te pose cette question parce que, d'abord, à mon avis, elle te concerne. Deuxièmement, moi, elle me titille. Parce que, quand on regarde l'histoire du cinéma français, que tu connais aussi bien et beaucoup mieux que moi, c'est qu'on se rend compte que c'est un des cinémas, peut-être avec l'italien, le moins dansant du monde. Et je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que tu as une idée
là-dessus ? Les Français ont des culs de plomb, ça c'est bien connu. Moi-même, le premier, d'ailleurs, je ne sais pas faire 3 pas de danse, mais ça, c'est vrai qu'on est des culs de plomb. Mais alors que les Italiens, théoriquement, sont meilleurs danseurs.
Et en même temps, dans le cinéma.
Mais dans le cinéma, oui. Il n'y a jamais eu que des cas d'espèce pour contredire.
Parce que moi, je pense que une bonne partie de ce qui est devenu la force du cinéma français, c'est de chorégraphier tout sauf le corps. Le langage, la caméra, les histoires, les scénarios, les fictions, à l'exception du corps. Et que c'est vrai qu'un film américain beaucoup moins raffiné, qui simplement sait faire bouger quelqu'un, aujourd'hui encore, ça nous touche. Et alors je me dis, à un moment, c'est un truc de culture. On n'y peut rien.
Non, mais ça, ce dont tu me parles de faire des films qui soient plus justement sur le regard sur les corps en mouvement, c'est quelque chose à laquelle je pense également depuis plusieurs années, surtout depuis le Pont du Nord. Et disons que c'était au départ du projet de Hurlevent, j'avais envie, malheureusement, là également, ce film a été très victime du temps limité de tournage. J'avais prévu beaucoup plus, au départ, dans mon esprit, beaucoup plus de scènes en extérieur sur les courses, sur les mouvements, c'est pourquoi je tenais également à avoir des acteurs jeunes et avec des corps dynamiques. C'est pourquoi j'avais choisi Lucas et Fabienne, parce que j'aimais la façon dont ils bougeaient, dont ils marchaient, dont ils se déplaçaient. Et chose que j'ai, malheureusement, pas pu beaucoup montrer dans le film, même si j'aime bien la façon dont ils bougent dans le film, mais beaucoup moins, je les ai beaucoup moins filmés sur les mouvements, sur les corps, que je n'avais envie de le faire au départ. J'ai pas pu. Ça a été un tournage difficile. Et puis peut-être j'en étais moi-même, c'est une envie que je ne sais pas transcrire, mais je sais que c'est quelque chose à laquelle, voilà, justement, maintenant j'ai envie d'essayer de revenir par un autre biais. Je suis en train de chercher le biais, justement. Mais ça ne sera pas directement la danse. Je veux pas, j'y pense toujours à la danse, j'y pense toujours. Peut-être je le ferai jamais, mais je ne veux pas le faire directement après la bande des cartes, parce que ça risquerait d'être trop voulu, justement. Donc la danse peut-être, mais dans quelques années. Si je trouve, mais il faut trouver les personnes, là, il faut trouver les complices, il faut trouver, comme disait Renoir, il faut, comme je ne suis pas chorégraphe ni danseur, il faut que je trouve la personne avec qui j'ai le dialogue, qui soit comme Calfon était le metteur en scène d'Andromaque dans L'Amour fou, quelqu'un qui soit au centre du film, comme donc ce qu'aurait été Caroline Carlson si on avait fait ce quatrième film de la tétralogie des Filles du feu, scènes de la vie parallèle. Et pour le moment, je ne sais pas. Mais par contre, un film qui soit davantage le regard, en tout cas, sur les corps en mouvement, oui, ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire maintenant.
Et moi, ça me frappe d'autant plus qu'il me semble que les films dont on a parlé, qui sont des gros succès de box-office, sont des films incroyablement statiques. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on est plutôt dans une période de règne de l'image arrêtée ou de l'arrêt sur l'image.
Oui.
Et qu'il y a quelque chose dans le cinéma, comme ça, une sorte de mouvement accumulé dans l'histoire du cinéma, énorme, qui n'arrive plus à se montrer. Sauf peut-être des fois, une fois de temps en temps, dans les quelques bons clips qui existent. Bon. Et encore, les meilleurs clips, c'est plutôt Mondino, Geshpati, et c'est plutôt fait sur l'immobilité, enfin sur un corps qui ne bouge pas.
Très peu. Ouais.
Très peu, mais qui a des...
Moi, il y a un clip que j'admire beaucoup, qui est d'une façon très différente, c'est le clip de France Gall, elle là. Mais justement, France Gall bouge très peu dedans, voilà. Et c'est de façon... C'est la tête qui bouge. C'est ce qui est intéressant, c'est ces mouvements de... Mouvement de cou, son petit côté petite chèvre de Monsieur Seguin, et qu'elle a, justement, elle l'a, très bien.
On parlait avant l'émission entre nous, on parlait de la difficulté qu'avaient les jeunes acteurs à avoir des points de repère. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire du cinéma, qui a 20 ans, qu'est-ce qu'il a comme chose forte par rapport à quoi il peut se définir? Disons, à un moment, il y avait l'acteur studio, par exemple, donc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a été tellement énorme qu'on pouvait dire oui ou non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Chéreau, Vitesse, deux, trois troupes de théâtre.
Nouchkine, qui est très important Nouchkine. Aussi pour eux.
Et est-ce que ça crée des tics ou est-ce que ça crée des possibilités pour les cinéastes après de regarder ces mouvements?
Je ne me sens pas compétent pour répondre à cette question. Parce que là, bon, j'ai justement, dans les jeunes comédiennes que j'ai vues, même celles qui sont dans le film, il y a deux comédiennes qui ont travaillé plus assez deux ans, je crois, Fejria et Bernadette, dans le cours d'Antoine Vitesse. Laurence est passée, elle a fait un stage chez Ariane Mouchkine. Nathalie, c'est un parcours plus classique, c'est le conservatoire, donc dans les classes, je sais pas quoi, Bouquet et d'autres. Je dois dire que j'ai pas senti d'empreinte forte ni de l'un ni de l'autre chez elle. Sauf Fejria, qui est des cinq principales comédiennes, puisqu'on avec Inès, donc cinq. Inès, bon, c'est un parcours différent puisque c'est le Portugal, le théâtre français à Lisbonne où elle a joué dans le cadre même de ce lycée français de Lisbonne. Fejria est celle qui, des cinq, a le plus envie d'être metteur en scène elle-même, de théâtre ou de cinéma, d'écrire des histoires et tout. Donc c'est elle qui effectivement a sans doute pris chez Vitesse le plus de choses, justement, à mon avis, très positif de Vitesse, c'est-à-dire cette espèce de science de théâtre qu'il donne à ses élèves, qu'il leur déverse comme ça par des anecdotes, par des théories, par faisant brusquement référence à tel fait du XVIIe siècle ou telle anecdote de Stanislavski par rapport à une comédienne. Ou, bon, je peux pas parler parce que j'ai pas vu assez de ce que fait Vitesse avec ses comédiens, ses jeunes élèves comédiens et comédiennes, et j'ai encore moins vu de ce que fait Ariane Mouchkine dans ses séminaires. J'ai l'impression qu'ils sont plus importants pour leurs élèves, justement. Non pas par des exemples d'éthique, des procédés, parce que Vitesse, justement, il ouvre tout. Je crois qu'il y a de très positif. Je parle du cours de Vitesse, encore une fois, parce que j'y ai un petit peu assisté, j'en ai plus parlé avec Fejria Bernadette. C'est que ce qui l'intéresse, c'est de prendre une scène de Tartuffe et de montrer cinq façons différentes, coup sur coup, de la mettre en scène, de montrer tel personnage, comment on peut, comment la plasticité du théâtre. Je crois que c'est ça qui l'intéresse fondamentalement, Vitesse. Et que même, il a envie lui-même de reprendre les mêmes pièces et de les monter de façon différente. C'est ça qui l'intéresse fondamentalement, je crois. C'est la plasticité. Une pièce, et c'est vrai d'ailleurs, c'est ça le théâtre. Une pièce est faite pour être jouée et rejouée et rejouée par d'autres acteurs et éventuellement avec d'autres points de vue, d'autres angles. C'est pourquoi une pièce reste vivante. Bon, il y a ces pièces, justement, ça fonctionne, comme Molière, comme Shakespeare, comme, on ne va pas citer tous les grands noms du théâtre mondial, universel. Et d'autre part, il y a d'autres pièces qui sont liées à une époque et dont on ne peut pas les sortir. Enfin, par exemple, bon, c'est flagrant pour tout le théâtre qui a eu un grand succès au 19e siècle, Dumas fils, Émile Augier. Si on veut les jouer, on ne peut les jouer qu'en costume Second Empire, en retrouvant les codes de l'époque, on ne peut pas les transposer. Alors que Molière, on peut le jouer de 500 façons différentes. Il y en a certaines qui fonctionnent mieux, d'autres qui fonctionnent moins bien, mais tout est possible. Racine, Shakespeare, tout est possible.
Bien sûr.
Il y a des cas un peu à part, parce que Pirandello, par exemple, Dieu sait si c'est lié à l'Italie du début du siècle, et parce qu'à chaque fois, il part d'anecdotes très précises, réelles, la plupart du temps siciliennes, qu'il transpose plus ou moins. Et pourtant, on peut bouger Pirandello. Ça bouge, Pirandello. C'est peut-être moins plastique que Molière, mais ça bouge. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, Claudel, ça peut bouger. Une pièce ne peut traverser le temps que si des comédiens, d'abord 15 ans après, ensuite 100 ans après, ensuite 5 siècles après, ont de nouveau envie de la jouer. Mmh. Et peuvent le faire. Mmh. Et ils ne peuvent le faire que s'il y a effectivement cette plastique. À la fois, colonne vertébrale très très forte, enfin qui traverse les âges, et ce langage également très fort qui traverse les âges, parce qu'on peut pas toucher, enfin, si on joue Corneille et Racine et Marivaux en français, on va pas changer un mot, même si c'est de la prose, je veux dire, Marivaux c'est de la prose, on peut quand même pas bouger un mot dans Marivaux. Pareil pour Shakespeare, mieux vaut, je crois, si on le joue en anglais, encore dans Shakespeare, on a le choix, Hamlet, il y a trois versions, on peut choisir, ou faire un puzzle des trois versions, comme ils le font la plupart du temps. Donc il y a le principe de la pièce qui est très fort, qui traverse les âges, il y a la langue de la pièce qui doit être très forte, et d'ailleurs c'est pas pour rien si on continue si Eschyle et Sophocle l'ont traversé, parce que leur langue est très forte. Et puis, en même temps, cette plasticité énorme qui fait que 25 siècles après, on peut avoir envie de reprendre Électre, Antigone, etc., et Dieu sait si c'est... Bon, Électre et Antigone, en tout cas, c'est encore près de nous. Mais là, justement, il y a 8 jours, j'ai eu envie de lire. J'avais jamais lu cette pièce. J'ai pris le théâtre des tragiques grecs dans la Pléiade, traduction de Jean Grosjean, qui est un traducteur que j'aime beaucoup, qui traduise Eschyle ou Sophocle, ou qui traduise Shakespeare, ou qui traduise la Bible. Je ne sais pas si c'est fidèle. Je ne vais pas comparer avec Shakespeare. Je regarde un petit peu par rapport à l'anglais, mais j'ai pas regardé par rapport au grec pour Eschyle et Sophocle, et encore moins par rapport à l'hébreu pour sa traduction de la Genèse, qui est parue il y a 2 ans chez Gallimard. Et j'ai découvert la Genèse en lisant vraiment cette traduction. Bon, et donc j'ai pris les Suppliantes. Voilà, une pièce de Sophocle. Finalement, on connaît les sujets des 6 autres. Et finalement, les Suppliantes, je ne savais pas le sujet. J'aurais été incapable de raconter. Électre, tu peux raconter. Oui. Antigone, tu peux raconter. Ajax, à la rigueur, tu peux raconter. Philoctète, à la rigueur, tu peux raconter. Oedipe, les 2 Oedipe, encore plus. Les Suppliantes, j'étais incapable. J'ai lu les Suppliantes, comme ça, d'une traite, comme si j'assistais à leur présentation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est sans doute injouable maintenant, mais ça serait possible. Pendant les 3/4 de la lecture, je me suis dit, j'ai envie de mettre en scène les Suppliantes l'année prochaine. Bon, finalement, c'est pas vrai. Le dernier quart est très difficile quand Hercule arrive, puisque c'est la mort d'Héraclès, en fait. C'est Déjanir qui envoie la toison fatale de Nessos à Héraclès et la mort d'Héraclès.
Mais alors, en t'entendant parler, je me disais, il parle formidablement du théâtre, mais sa vie consiste à voir quand même plutôt des films, en faire et en voir.
Or, j'adore lire du théâtre, par contre. Alors, j'ai beaucoup de mal à lire beaucoup de choses. Je peux pas lire des grands romans, ou alors, bon, finalement, j'y arrive. Mais alors, là, à ce moment-là, je préfère commencer un Balzac ou un Dostoïevski, parce que là, je me dis, dès le départ, je me dis, ça vaut le coup de plonger dans ces 500 pages, ou parce que, du coup, alors que j'ai pas le même courage quand il s'agit d'un roman contemporain, à tort ou à raison.
Donc, tu aimes lire du théâtre?
Mais par contre, le théâtre, oui, parce que je le lis pas forcément en faisant la mise en scène d'ailleurs, mais quand même en imaginant des voix de comédiens, donc, des déplacements. Et j'ai lu tout La Biche, le théâtre complet de La Biche en 8 volumes, les 165 pièces, je les ai lues et relues toutes.
C'est-à-dire que même simplement en lisant, ce côté plasticité du théâtre te touche et te donne envie des fois de le faire.
Oui.
Or, en même temps, tu es un cinéaste, après tout, comme tu disais, je suis un cinéaste. Et
Musset, par exemple, c'est un auteur que je défends toujours parce que comme tout le monde le sait, c'est un grand dramaturge. Mais si c'est un grand dramaturge, c'est faux de dire que c'est un mauvais poète et un mauvais romancier. C'est du coup, faut relire. On relit à partir des Caprices de Marianne et de Renzaccio. Il faut relire tous les grands poèmes de Musset. Il faut relire La Confession d'un enfant du siècle. Il faut lire ses contes et ses nouvelles. C'est admirable.
Ah mais Musset, c'est un grand.
C'est un grand méconnu.
C'est-à-dire que c'est pas qu'il est pas connu, c'est que on lui prête un personnage qu'il n'est pas.
Absolument.
Mais enfin, je voudrais quand même revenir au cinéma. Toi qui vis quand même plutôt dans le cinéma, même si le théâtre te passionne, on peut pas dire d'un vieux film ce que tu viens de dire des Suppliantes. C'est-à-dire que Tabou de Murnau, ça n'a pas de plasticité.
Non, le cinéma n'a pas de plasticité.
Alors justement, comment on fait avec les grands classiques du cinéma.
De ce côté-là, le cinéma, ça c'est un lieu commun de la critique des 1920. C'est la grande question que sont posées Canudot, de Luc, etc. Ils savaient bien que c'était le 7e art, mais ils savaient pas très bien comment. Et tout ce qu'ils ont écrit à l'époque reste passionnant. Ou Epstein et tous ces gens-là, plus ce qui est arrivé au moment du parlant, mais qui n'a fait, comme Bazin l'a dit très bien, que, en fait, réaliser réellement ce qu'avaient pressenti de Luc, Canudot, Epstein et les autres. Et les mettre en scène, bien sûr. Et donc, de plein de côtés, donc le cinéma est du côté du roman pour telle raison, du côté du théâtre pour telle raison. De point de vue dont tu viens de parler, le cinéma est du côté de la peinture, où il n'y a un exemplaire, ou de la sculpture à la rigueur, dont on peut faire différentes copies, on peut faire des moulages, on peut faire diversion, on peut mouler 10 fois le Balzac de Rodin, par exemple. Quelqu'un d'autre commande le Balzac de Rodin, je veux dire qu'il a les moyens et le droit de le faire à la Fondation Rodin, je ne sais pas comment ça fonctionne, on peut lui faire un double du Balzac de Rodin, qui sera l'équivalent de celui qui est à Vavin. De même que si le négatif d'un film subsiste, on peut tirer une nouvelle copie.
C'est
du côté de la sculpture avec les multiples. C'est plus proche de la sculpture que de la peinture.
Parce que
la peinture, il n'y a pas de multiple.
La copie, le moulage.
Ou de la gravure.
Voilà. Et puis le théâtre qui se fait l'interprétation. Mais on ne peut pas interpréter un film. Il est là,
comme une sculpture.
Mais alors, il nous reste peu de temps.
Et donc, on peut tourner autour.
Mais comment, toi, Jacques Rivette, qui vois beaucoup de films, comment tu as d'un côté le cinéma qui est là, comme une sculpture
Oui, comme une sculpture, parce que ça a trois dimensions, comme la sculpture. La sculpture, ça a les trois dimensions de l'espace, et le cinéma, les deux dimensions dans l'espace, mais la dimension du temps. Donc, trois dimensions aussi.
Parce que là, l'émission arrive à son terme, et on n'a pas commencé à parler de ce que
on commence à parler plutôt
premier d'aborder,
mais on en reviendra l'année prochaine,
qui était l'énorme consommation de films que tu fais.
Bon, ça c'est de l'anecdote. Mais alors, on en a parlé déjà tout à l'heure par rapport au théâtre, par rapport à je ne sais plus quoi.
Non, ce sera ma seule question sur la question, c'est comment on fait pour voir à peu près tout ce qui sort sur les écrans parisiens, alors qu'on sait qu'on a de moins en moins de gens avec qui en parler.
C'est pas pour en parler, c'est de façon très égoïste. De toute façon,
est-ce que c'est utile pour ton travail?
C'est une question que je ne me pose pas tellement. C'est plutôt une drogue. Bon, il y a des personnes, c'est l'alcool. Il y a des personnes, c'est je ne sais pas quelle mixture, etc. Bon, pour moi, je suis addict au fait d'être devant un écran sur lequel on projette des ombres avec un peu de son, accompagné de son, parce que c'est très important maintenant. Non, je suis addict complètement à cette drogue. Et parfois, je peux passer 8 jours, 15 jours sans, pour des raisons diverses, si je suis dans un pays où il n'y a pas ça, ou si je suis dans une intrigue qui l'empêche, ou dans un travail trop absorbant. Mais après, il faut que je rattrape, absolument, il faut que je rattrape. Et puis donc, je trouve que c'est lié au travail que j'essaye de faire. Tant mieux. Parfois, ça donne des idées de voir des films.
Oui, oui, bien sûr.
Mais plus les mauvais films que les bons. Les bons films ne donnent aucune idée. Films sont c'est très agréable d'en voir parce que c'est tonique, ça. Ça prouve que le cinéma continue d'exister. Mm-hmm. Le fait que, bon, j'ai vu il y a deux jours le dernier film de Jacques Doyon, qui est magnifique, c'est tonique parce que ça donne envie de continuer à faire d'autres films. Mm. Mais ça ne m'a donné aucune idée. Au contraire, ça les enlève, puisqu'il l'a fait. Par contre, si je vois quelqu'un dont je me dis, tiens, là, il est passé à côté d'une grande idée, soit il l'a vu, mais il n'a pas réussi à la transcrire, à la travailler, soit il l'a peut-être même pas vu. Donc, du coup, on a envie, effectivement, cette idée-là de la piquer, de la prendre et de la travailler à sa façon.
C'est ça. Oui.
C'est pourquoi j'adore voir des mauvais films. C'est très reposant, d'abord. Et puis, ça donne des idées. Et puis, parfois, on voit des bons comédiens qui sont égarés dedans. Et ça donne envie, justement, de les prendre et de jouer au Saint-Bernard. Enfin, si on peut, parce que parfois, les comédiens, on essaye de leur donner des bons rôles. On n'y arrive pas à chaque fois.
En fait,
on ne leur rend pas service.
Il y aurait deux types de films. Il y aurait les films qui, n'étant pas très bons, donnent des idées. Et les films qui, étant bons, donnent envie d'en faire d'autres.
Voilà. Malheureusement, il y a tout l'intermédiaire. Alors ça, c'est sans intérêt. Mais on ne peut pas savoir à l'avance.
Les films
qui sont ni très bons, ni très mauvais, les films moyens et qui sont standards, qui sont La Machine. Alors, ça peut être aussi bien La Machine Coppola qui donne Tucker que La Machine Tom Cruise qui donne Cocktail. Pour moi, c'est pareil. Bon, je veux dire, je prends plus de plaisir à voir Tucker que Cocktail, mais ça, tous les deux, ils sortent de la machine. Je vois fonctionner des machines, je vois le résultat d'une machine, et c'est pas intéressant, je veux dire. Ça m'ennuie prodigieusement. J'ai pris un grand plaisir en voyant Tucker et j'en suis sorti consterné. Parce que c'est l'ordinateur, donc les films d'ordinateur, on n'en a aucune surprise en les voyant. Et la seule chose qui soit intéressante au cinéma, je continue à penser que c'est la surprise, bonne ou mauvaise.
Alors l'émission est finie, la bande des quatre est une très très bonne surprise, je pense qu'on l'a déjà compris. Et on remercie Jacques Rivette d'avoir parlé pendant 15 jours avec nous. Ce n'est évidemment que 1 millionième de ce qu'on pourrait se dire. Merci.
La seconde partie des entretiens de Jacques Rivette avec Serge Danet pour son émission Microfilm a été diffusée pour la première fois le 12 mars 1989.